Radio Prague, les informations.
Les renforts de la police resteront dans la région de Chluknov probablement encore pendant une année. Réduction du rendement du premier bloc de la centrale de Temelin. Légère baisse du taux de chômage en République tchèque. La police a embauché le 1er novembre dernier 50 nouveaux policiers qui seront affectés au bout d'une période de formation de 6 à 12 mois dans la région de Chluknov en Bohême du Nord. D'après le ministre tchèque de l'Intérieur Jan Kubice, ils prendront la relève des unités de police d'autres régions tchèques qui opèrent actuellement dans cette région éprouvée par des conflits entre la minorité rom et la population majoritaire. C'est une panne du système de protection électrique d'une des quatre pompes de circulation qui est en cause de la réduction de moitié du rendement du premier bloc de la centrale nucléaire de Temelin en Bohême du Sud. La production d'électricité dans ce bloc n'a pas été cependant suspendue. Le taux de chômage en République tchèque a atteint en octobre 7,9%. C'est une baisse par rapport au mois de septembre dernier lorsque la Tchéquie affichait encore le taux de chômage de 8%. Les analystes ne trouvent pas cependant ce résultat comme très positif et estiment que le nombre de chômeurs augmentera dans les mois à venir. Ils soulignent que le nombre de places disponibles est en baisse. Le résultat relativement positif ne serait dû donc qu'aux emplois saisonniers. La deuxième édition du festival Check-in pour le cinéma tchèque proposera au public parisien à partir de ce mardi les projections de six films importants de la production cinématographique tchèque actuelle. Le festival, qui se tiendra jusqu'au 14 novembre dans le cinéma L'Entrepôt à Paris, sera ensuite présenté également à Arras et à Rennes. Parmi les œuvres qui figurent à son programme, il y a entre autres le film Doom, la maison de la jeune réalisatrice Zuzana Liova. Le public parisien aura également l'occasion de voir le film Otrazeni sur le départ, réalisé par le dramaturge, ancien dissident et ancien président de la République, Václav Havel. En 10 ans, la fréquentation du zoo de Prague a doublé, de même que le nombre d'animaux. Lundi, le zoo comptait déjà 1,3 million de visiteurs depuis le début de l'année. Le record de fréquentation de cette institution pragoise était déjà tombé dimanche avec 1 296 579 visiteurs par rapport à l'année 2009. Au début du millénaire, le nombre de visiteurs tournait autour de 635 000 personnes par an. Météo. Mardi, jour de fête des Bohumir, le temps en Tchéquie est couvert et les températures sont comprises entre 8 et 12 degrés pour les maximales. Mercredi, la situation restera quasi identique et les températures maximales ne dépasseront pas 11 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. Le Centre français de recherche en sciences sociales, plus connu sous son acronyme CEFRES, souffle ses 20 bougies. Des tables rondes sont organisées à Prague à cette occasion. Nous reviendrons sur l'histoire de ce centre de recherche franco-tchèque avant de parler d'une affaire qui fait du bruit et qui est plutôt gênante pour le ministère de l'Éducation tchèque. Des données sensibles ont fuité sur son site internet. Plus d'informations dans notre programme. Bonne écoute de cette émission. Je vous le disais en titre, le Centre français de recherche en sciences sociales, ou CEFRES, ouvert à Prague en 1991, célèbre son 20e anniversaire. À cette occasion, un colloque auquel étaient conviés de nombreux chercheurs français, tchèques et d'Europe centrale s'est tenu ces lundi et mardi. L'occasion également de revenir avec Françoise Mayer, son actuelle directrice, sur le rôle et la mission du CEFRES. On l'écoute au micro de Guillaume Narguet.
Le CEFRES a été créé au départ comme un observatoire des transformations en Europe centrale. Donc il avait pour but à la fois de favoriser des échanges de façon à mieux comprendre ce qui se passait à l'époque dans cette partie de l'Europe qui rejoignait l'Europe, et puis redynamiser un certain nombre d'échanges dans différentes disciplines. Et comme l'a rappelé Marie-Elisabeth Ducreux hier, toutes les disciplines ne s'étaient pas totalement arrêtées et, sous le communisme. Certaines étaient plus sinistrées que d'autres. Là où c'était le plus grave, c'était sans doute la sociologie, pour ne pas parler de la politologie et de la philosophie. Mais il y avait en fait des lieux qui ont permis de continuer les liens, et c'est sur ces cercles que nous nous sommes appuyés aussi pour démarrer des coopérations fructueuses. La philosophie était évidemment très endommagée par le régime totalitaire, mais les associations Jan Hus, enfin les différentes formes de l'association Jan Hus ont permis de maintenir des liens tout à fait significatifs dans cette discipline, et la philosophie a été une des disciplines importantes pour le CEFRES dans ces années de démarrage.
Durant ces 20 ans, comment a évolué le rôle du CEFRES et ses grandes missions? On sait qu'il y avait une grande soif, il y avait un besoin de savoir, d'informations sur l'Europe centrale au début des années 90. C'est certainement moins vrai aujourd'hui. Il suffit de prendre les journaux et l'Europe centrale a pratiquement disparu maintenant que les transformations sont passées. Alors par rapport à ça, par rapport également à l'entrée de tous ces pays dans l'Union européenne, comment le rôle du CEFRES a-t-il évolué?
Alors, je pense qu'au début, on a accompagné la transformation dans différentes disciplines des sciences sociales. Notre rôle a été particulièrement important dans certaines d'entre elles, comme l'anthropologie culturelle, l'anthropologie sociale. Bon, la philosophie, j'en ai déjà parlé. L'histoire, la politologie, il y a eu de nombreuses opérations qui ont permis de recréer des liens nécessaires à la réinsertion des politologues dans les réseaux internationaux. Donc il y a eu un rôle très important en direction de la formation des jeunes chercheurs. Et ensuite, le centre a évolué vers une plus forte internationalisation et vers un accueil diversifié de chercheurs. Nous sommes maintenant une unité de recherche qui dépend aussi du CNRS, ce qui nous donne une légitimité scientifique plus forte et qui nous apporte aussi des moyens de façon à développer des actions multilatérales sur toutes sortes de thématiques. Donc les missions sont diverses. Les missions sont à la fois des missions de formation de chercheurs, de recherche, nous essayons de participer aussi aux questions d'actualité et d'entrer dans le débat public.
Comment voyez-vous le proche avenir du CEFRES? N'y a-t-il pas lieu d'avoir certaines craintes? On sait qu'il y a des coupes budgétaires un peu partout et que la recherche n'est pas forcément une des priorités.
Je crois qu'elle est encore plus utile aujourd'hui, à une époque où en France, en République tchèque et dans l'ensemble des pays d'Europe, on doit de plus en plus travailler en réseau et à l'échelle vraiment internationale, et qu'une institution comme le CEFRES qui permet l'interface, c'est-à-dire qui peut recevoir des chercheurs qui ne sont pas obligés de travailler avec telle ou telle institution, mais qui ont la liberté de travailler avec toutes les institutions, c'est une richesse très rare. Si on comprend ce rôle que peut jouer le CEFRES, à ce moment-là, on n'a aucune inquiétude à avoir pour le CEFRES.
Le ministère de l'Éducation a publié sur son site internet les données sensibles de quelques 900 étudiants d'origine rome, une information révélée par la télévision tchèque et qui met le ministère dans une situation pour le moins inconfortable. C'est dans son bulletin d'information de lundi midi que la télévision tchèque a révélé l'affaire. Sur le site internet du ministère de l'Éducation, un document Excel est librement téléchargeable par tout un chacun, contenant les données sensibles de 900 étudiants d'origine rome soutenus financièrement par le ministère. Sont publiés ainsi sur le site les noms, prénoms, dates de naissance et même les adresses de ces jeunes roms bénéficiaires de bourses qui servent à payer leurs frais d'internat, leurs repas ou le matériel nécessaire à l'étude. Dès l'annonce de la nouvelle, le ministère retire le document incriminé, affirmant que celui-ci n'a été en ligne que pendant la matinée de lundi. Pourtant, celui-ci semble y avoir été bien plus longtemps, puisque la date d'enregistrement affichée le 20 novembre. Katarzyna Savitchova, porte-parole du ministère de l'Éducation. Cette affaire est toute fraîche. Nous menons notre enquête sur ce qui a pu se passer. Bien entendu, nous avons immédiatement supprimé ces données de notre site. C'est une situation très désagréable. Pour l'instant, rien n'est très clair. Les droits d'administrer le site sont réservés à certaines personnes. Nous devons bien entendu déterminer qui a publié ce document, même s'il est clair qu'il s'agit probablement d'un de nos employés. Pour Dan Amour de l'Université Charles, cette faute peut avoir des conséquences particulièrement désagréables pour les personnes concernées. Dans cette société, ce type d'incident peut logiquement entraîner des phénomènes d'envie et de jalousie. Un tel va se rendre compte qu'il n'a pas reçu de bourse, alors que ces personnes en ont bénéficié. En outre, tout ceci est combiné avec une problématique ethnique. Une problématique sensible, en effet, dans un pays où les relations avec la minorité rome ne sont de loin pas au beau fixe, comme en témoignent les récentes tensions ethniques entre roms et non-roms dans le nord de la Bohême. Le Bureau pour la protection des données personnelles a déjà fait savoir, pour sa part, qu'il allait s'intéresser à l'affaire. David Pavlat.
Nous allons nous occuper de cette affaire et nous lançons une procédure pour une possible violation de la loi sur la protection des données personnelles sensibles.
Entre-temps, après avoir retiré les données en question de son site internet, le ministère de l'Éducation, par la voix du ministre Dobesch, a décidé de son côté de porter plainte contre X. Affaire à suivre donc. On passe tout de suite à la suite du programme. L'acteur comique français Pierre Richard était à Prague pendant 2 jours cette semaine. Cependant, il n'était pas là pour un événement en rapport avec le cinéma ou encore le théâtre, comme on aurait pu s'y attendre, mais pour présenter son vin. En effet, l'acteur, célèbre en France comme en Europe pour ses rôles dans de nombreux films humoristiques français, est également vigneron. Depuis 1986, il possède un domaine dans l'Aude, le château Bel-Évêque. C'est donc au restaurant Mon Rouge Pif, du nom d'un de ses vins, à Jichkov, à Prague, qui distribue les productions de son domaine, que nous avons pu le rencontrer. Retour sur une longue carrière avec cet acteur qui a de la bouteille.
Panorama.
Panorama.
Pierre Richard, acteur célèbre, certes. Cependant, il se trouve à Prague pour présenter son vin. S'agirait-il d'un recyclage d'artistes sur le déclin? Eh bien non. Selon lui, il existe une véritable continuité entre le jeu d'acteur et la production viticole.
Ce qui est sûr, c'est que le vin, finalement, reflète la personnalité de celui qui le fait. Comme le film ou la pièce de théâtre qu'il joue, reflète en partie la personnalité du directeur. Faire du vin, c'est... Comme c'est moi qui choisis, c'est un vin d'assemblage. Comme c'est moi qui choisis les assemblages avec mon œnologue, les proportions, on peut dire que c'est quand même quelque chose de moi qui vient de mon goût personnel. Donc il peut y avoir effectivement une ressemblance avec le métier d'acteur où on met de soi-même bien sûr dans un rôle. Deuxièmement, ça, c'est les moyens. Deuxièmement, l'objectif, finalement, peut être aussi assez ressemblant dans la mesure où, en jouant au théâtre ou au cinéma, on rassemble des gens qui viennent regarder votre film et qui sont censés leur donner soit du rire, soit de l'émotion. Et qu'au fond, le vin, ça se partage, c'est un produit de partage comme le cinéma. Vous donner aux gens la possibilité avec du vin de sourire, de rire, d'avoir un état d'euphorie qu'on partage avec des amis et même peut-être d'émotion. Enfin bref, les objectifs sont aussi peuvent aussi être assez semblables. C'est vrai.
Avec des films tels que La Chèvre ou encore Le Grand Blond avec une chaussure noire, l'acteur s'est fait connaître dans des films parmi les plus connus du cinéma comique hexagonal. Mais d'où lui est venue cette envie de faire rire le spectateur?
Je crois que c'est inné. On ne se dit pas, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être tragique ou je vais être comique? On est fait pour, naturellement. On est comme ça, comme on est avec des yeux bleus ou avec des yeux noirs. Et il y en a qui se dirigent spontanément vers le comique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire le contraire, d'ailleurs, parce que moi, je fais beaucoup plus de films maintenant dramatiques, ou en tout cas, beaucoup plus d'émotions. D'ailleurs, je trouve ça plus facile que le comique. Le comique, c'est vraiment... finalement, c'est angoissant. Il n'y a rien de pire que de raconter une histoire qui ne fait pas rire, quand elle veut faire rire. Alors, c'est pas forcément un choix, ou en tout cas, c'est un choix un peu dans son subconscient. Après, je me suis aperçu que j'aimais bien aussi émouvoir.
Pierre Richard est un des monstres sacrés du cinéma comique français, s'exportant bien à l'étranger, à l'instar de Louis Funès. Son humour repose avant tout sur la gestuelle, sur le rire, qui, comme l'explique Bergson, naît d'une soudaine inadaptation du corps à la réalité. Il l'explique lui-même en citant ses influences.
Oui et non, parce que j'étais plus proche dans ma sensibilité quand j'étais jeune acteur, disons. J'étais plus proche. Mes goûts, ils allaient vers Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jerry Lewis, les Mars Brothers, en France, Jacques Tati. À part Jacques Tati, donc, j'étais plus proche du cinéma américain qui s'exprime plus, enfin, de ce cinéma américain, qui s'exprime corporellement dans des situations où le corps est en action. Et le corps, d'ailleurs, c'est pas gratuit, traduit des sentiments, mais beaucoup plus avec la gestuelle qu'avec le texte.
Pendant longtemps, il jouera deux personnages très semblables et qui apparaissent dans de nombreux films, François Pignon et François Perrin. Archétype du cinéma français, il représente un personnage malchanceux, drôle malgré lui, mais pas forcément naïf selon l'acteur.
Pas naïf, innocent. Mais l'innocence, je l'assume et je la revendique jusqu'à l'âge de ma mort. L'innocence. La naïveté, c'est mignon jusqu'à 12 ans. Après, c'est bête. L'innocence, je souhaite à tout le monde d'en rester innocent, septuagénaire. C'est une belle qualité. C'est encore avoir la capacité de s'émerveiller.
François Pignon, ou Perrin, serait-il donc une facette du vrai Pierre Richard?
Oui, je me suis servi de moi-même pour faire des films. Mon premier producteur m'avait dit « Tu n'es pas un acteur, tu es un personnage. » Cherche toi-même, au fond de toi-même, ton cinéma. Au fond, comme Tati, comme Chaplin ou comme Keaton. C'est mon personnage. Je m'en suis servi longtemps de mon personnage. Maintenant, de temps en temps, je fais l'acteur chez les autres. Mais pendant longtemps, c'était mon personnage. Et bien sûr, mes sources d'inspiration, c'était moi-même. C'était ma timidité ou c'était mon inadaptation au monde dans lequel je vis. J'ai toujours été un peu inadapté, finalement, dans le monde dans lequel je vis. J'ai toujours été à la bordure. Même quand j'étais petit, j'étais pas complètement installé dans ma famille. J'étais en pension, j'étais pas installé dans la... Ça, c'était plus facile de pas... J'étais pas installé dans mon rôle d'élève pensionnaire. J'étais pas adapté... Et même dans le théâtre ou le cinéma, j'ai toujours été un peu en marge. J'ai du mal à rentrer dans un contexte. Mais je me suis servi de tout ça dans mes films.
Pierre Richard a souvent tenu le rôle titre à côté du très célèbre acteur Gérard Depardieu, qui est par ailleurs lui aussi propriétaire d'un vignoble. Richard incarnait donc l'élément comique face à Depardieu, qui jouait toujours le rôle de l'homme sérieux, viril et donc moins drôle. Cependant, les personnages étaient dépendants l'un de l'autre tant ils se complétaient.
J'étais pas plus drôle que Gérard. J'étais drôle grâce à Gérard. Et parce que souvent, ce qui est drôle, c'est pas ce que vous faites, c'est le regard de l'autre qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce type ?» Mais Gérard faisait ça très bien. Il me mettait en valeur, parce que quand je faisais quelque chose, il faisait... Bon. Et il le faisait merveilleusement bien. Et moi, j'ai passé mon temps en regardant le film, en disant « Oh, ben, Gérard m'a énormément mis en valeur. » Et vice-versa, probablement, d'ailleurs. Mais je ne me suis jamais senti plus drôle que Gérard parce que c'était, encore une fois, écrit comme ça. Et que Gérard m'apportait... J'ai toujours eu besoin d'un mur dans mes personnages. J'ai eu Bernard Blier, qui était un acteur conséquent, Si vous faites tomber un verre de vin par mégarde sur quelqu'un de drôle, c'est pas drôle parce qu'il va lui ou il va faire. Mais si vous faites tomber un verre de vin sur quelqu'un de sérieux, de grave ou de dangereux, ça c'est drôle.
Un acteur qui a donc toujours donné une partie de lui-même dans ses rôles et qui, à l'âge de 77 ans, poursuit toujours une carrière de vigneron. Après ces films, ce sont donc ces vins qui peut-être sauront conquérir les amateurs tchèques qui souhaitent partager un moment de convivialité sous son patronage.
Voilà, et à noter que cet entretien avec Pierre Richard, qui est également la coqueluche des Tchèques, a été réalisé par nos collègues de la station Regina. C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sous forme d'articles sur notre site internet et également en podcast ou bien encore en streaming. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.